On est en fond de l'effectif réduit, donc on va commencer. Donc c'est Christophe, c'est ça?
Oui.
Marcignac, tu nous viens de l'Académie de Nancy-Metz.
Oui, c'est ça.
Et tu nous parles d'un dispositif de mutualisation de ressources en géologie.
Voilà.
Je te laisse te présenter un petit peu plus pour expliquer le cadre dans lequel tu travailles. Et puis ensuite, tu as une dizaine de minutes pour présenter.
Oui. Donc je suis prof de SVT. Je suis dans l'Académie de Nancy-Metz. Mais ce qu'on va voir là, ça peut être valable dans d'autres matières aussi, comme en histoire géo, du moment qu'on a besoin de travailler sur des données géographiques. Donc là, il s'agit de l'intégration des outils géomatiques dans un site internet collaboratif, c'est-à-dire qui va inclure plusieurs professeurs. Donc le but, c'est de mettre en commun des connaissances des professeurs. Intégration et aussi automatisation. Vous voyez ici le site de l'Académie de Nancy-Metz, le site académique en SVT. Et donc, on va se pencher sur une des rubriques, qui est la rubrique de géologie régionale. Alors, la problématique, c'est qu'un site comme celui-là implique une collaboration entre de nombreux enseignants. Dans le domaine de la géologie, les outils géomatiques sont indispensables, mais ils impliquent des contraintes techniques importantes, dès lors qu'il s'agit d'ajouter un nombre important de données. Donc dans ce cadre, il va être intéressant d'automatiser de manière à diminuer les contraintes techniques des enseignants et donc faciliter leur participation, tout en gardant des fonctions élaborées pour les visiteurs. Alors je vais vous présenter un petit peu le site Géologie de la Lorraine. Donc très rapidement, hein, on a une carte géologique sur laquelle s'affichent des petits carrés rouges. Il s'agit en fait de différents sites qui présentent un intérêt pédagogique pour les enseignants. Donc ce sont des profs de l'académie qui décident de remplir une fiche sur un site qu'ils connaissent bien pour mettre en commun leurs connaissances. Alors le système est automatisé. Chaque fois qu'un enseignant rajoute une fiche, crée une fiche, le point apparaît sur la carte. Donc ici, vous avez par exemple une liste des sites qui sont ajoutés actuellement. On peut faire différents tris, par exemple par notion. Si on veut illustrer la sédimentation, ben, voilà, ça nous sort la liste des sites géologiques où cette notion est illustrée. On peut choisir des circuits géologiques, c'est-à-dire dans une région donnée, un parcours avec plusieurs sites intéressants, un exemple de circuit géologique. Je passe rapidement pour arriver aux fonctions géomatiques. Il y a différents outils comme des annexes scientifiques, par exemple, qui sont disponibles. Ici, c'est un tableau des roches magmatiques. Il y a un glossaire, donc quand on clique sur un mot, il apparaît en hypertexte et puis on a accès à des schémas, des informations supplémentaires. Et puis en bas à droite, vous avez un champ de recherche. Donc même chose pour retrouver facilement, rapidement, un terme. Alors, quand on choisit un des sites, soit sur la carte, soit dans la liste des sites géologiques, on arrive à la fiche en question. Ici, en l'occurrence, c'est le château de Pierre Percé. Donc vous avez déjà une carte de géologie régionale, mais centré sur le site. Cette carte est créée automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a un système qui permet d'ajouter le carré à l'endroit indiqué par le professeur. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, on a la localisation de la fiche. C'est là qu'on aura différents outils géomatiques disponibles. On y reviendra. Puis différentes informations d'accès. Et puis une description, donc au niveau géologique. Des activités réalisables par les élèves, des idées d'activités, et puis éventuellement des annexes, comme par exemple des informations historiques sur le site. Alors les objectifs qu'on a privilégiés dans ce projet, c'est la mutualisation des connaissances des professeurs. Pour cela, la rédaction est un travail collaboratif, réalisé par les enseignants et qui ne nécessite pas de connaissances approfondies en informatique. Donc on a à peu près une quinzaine d'enseignants qui ont créé des fiches sans avoir aucune formation préalable, hein, pour l'utilisation de ce système. Deuxième objectif, c'est bien sûr l'intégration des apports de la géomatique. Et puis l'ergonomie, la facilité d'utilisation pour les utilisateurs du site, bien sûr. Donc tout le monde peut y avoir accès, les professeurs, les élèves ou éventuellement des visiteurs intéressés par la géologie, mais aussi pour les rédacteurs des fiches. Les apports de la géomatique. Alors si on revient sur une fiche, comme tout à l'heure, un site géologique, on a ici plusieurs liens. On peut par exemple localiser le site dans Google Maps avec bien sûr plusieurs vues possibles, plans, satellites, mixtes. Plus récemment, ils ont rajouté la vue relief avec un zoom, les courbes de niveau. Il y a des informations qui s'affichent. Donc à la fois le placement de ce petit marqueur sur la carte et les informations qui s'affichent, l'ensemble est créé automatiquement. En amont, c'est-à-dire que le professeur n'a pas du tout à s'en occuper. Lui, il va remplir les informations dans un champ et le point va s'ajouter où il faut sur la fiche. Elle sera consultable immédiatement par les visiteurs. Autre fonction, il y a moyen de télécharger le fichier KML pour Google Earth. Donc on enregistre le fichier sur le bureau, ici par exemple. Et puis ensuite, bien sûr, il faut avoir téléchargé, installé Google Earth. Et le fichier va s'installer au bon endroit et ça va zoomer dessus dans Google Earth. Donc ça va permettre, avec les élèves, par exemple, de préparer une sortie géologique. Troisième possibilité, ouvrir le fichier KML dans Google Maps. Donc on peut directement ouvrir ce fichier pour, par exemple, préparer un itinéraire. Toujours dans le but de préparer des sorties géologiques. Alors, une fonction un peu plus globale de géomatique. La liste des sites s'affiche automatiquement dans une fenêtre et puis les marqueurs se placent sur la carte. Et quand on survole la liste des sites, le marqueur change de couleur et en cliquant, on a des informations qui apparaissent. Donc là, même chose, toutes les fonctions disponibles dans Google Maps sont présentes. Ça permet de faire le lien avec la géographie, par exemple, hein, ici. De la même manière que tout à l'heure, on peut télécharger le fichier KML global pour avoir l'ensemble des sites qui s'installent d'un coup dans Google Earth. Donc ici, vous avez la quarantaine de sites déjà présents qui sont installés dans Google Earth. Alors ici, ce sont des photos qui sont aussi choisies par les professeurs. C'est-à-dire que dans les champs, quand ils remplissent les fiches, il y a moyen aussi d'ajouter une image qui se trouve sur leur disque dur. Et puis, on a accès aussi à un autre système que Google Maps ou Google Earth. C'est l'équivalent de chez Microsoft, Virtual Earth, qui a ses particularités. Par exemple, une vue bird's eye, donc une vue assez rapprochée, qui peut être utile, hein, dans certaines zones. Alors, les limites de la géomatique, pour un tel site, eh ben, elles sont repoussées de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'on a des outils gratuits qui sont en libre utilisation. Il y a certaines règles, hein. Par exemple, la page doit être accessible par n'importe qui sur Internet, elle ne doit pas être protégée par un mot de passe. Donc là, c'est le cas, hein. C'est consultable librement par les visiteurs. Mais on a des fonctionnalités de plus en plus intéressantes qui apparaissent. Bon, c'est aussi cet avantage, c'est aussi une limite, parce que ça va demander aux professeurs qui désirent utiliser ces systèmes de réactualiser très souvent leurs connaissances techniques. C'est-à-dire qu'ils vont s'habituer à un système, puis ils vont découvrir une nouvelle fonction, peut-être devoir s'habituer à un nouveau système. Donc on va essayer de contourner ces limites. Alors déjà, je le disais, une aubaine en ce moment, ou plutôt deux, c'est que l'ensemble de ces données, donc ces systèmes puissants, sont totalement libres, sans publicité, utilisables dans le cadre éducatif, hein, sans problème. Je dis ou presque, parce qu'il y a quand même l'icône de la société qui apparaît sur la carte.
Et puis on ne sait pas aussi si ça va rester sans publicité.
Alors voilà, hein, c'est pour ça que j'ai parlé d'aubaine. C'est le cas actuellement, on n'est pas certain que ça le restera par la suite. Bon, c'est sûr que la politique, c'est de s'implanter pour l'instant, de gagner les marchés. Par la suite, quand Google dominera, par exemple, hein, avec Google Maps ou autre, ou Yahoo, ben, peut-être qu'il y aura des applications commerciales et éventuellement de la publicité. Mais je ne le pense pas. Il y aura une partie qui restera libre, à mon avis. Alors, deuxième aubaine, si on peut dire, c'est que Yahoo, Google, Microsoft ont créé des accès qu'on appelle des API qui permettent d'ajouter des fonctions à une carte. On peut commander ces API par des scripts JavaScript. Hein, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas être trop technique, mais vous voyez, c'est assez rebutant. Inutile de vous dire que pour un professeur qui voudrait simplement utiliser une carte, rajouter différentes fonctions, ce n'est pas utilisable. Hein, ça serait un peu fastidieux, trop compliqué. Donc, on va essayer d'automatiser le système pour que le professeur n'ait pas lui-même à mettre les mains dans le cambouis. Hein, simplement qu'il ait à rentrer les données. Alors, pour cela, il y a un premier degré d'automatisation, il s'agit des mashups. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces systèmes-là. Ici, sur le site, en page d'accueil, tout en bas, on a accès au flux RSS. Donc, je pense que vous connaissez ça. C'est une page d'information qui est mise à jour régulièrement. En l'occurrence, chaque fois qu'un professeur remplit une fiche, ce flux RSS est actualisé. Et donc, l'image, la description apparaît dans ce flux. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce flux RSS avec un mashup, c'est-à-dire une application en ligne capable de prendre des données de différentes sources, de les associer et de les afficher. Donc ici, il s'agit de Popfly, par exemple de Microsoft. Le système est tout simple. On introduit un bloc. On choisit dans la liste des blocs le bloc RSS. On indique l'adresse de notre flux RSS. Et puis, on choisit un autre bloc qui est le bloc VirtualErf. Et on fait un lien entre les deux blocs. Et après avoir réglé quelques paramètres, ça permet d'obtenir ce qu'on a vu tout à l'heure, cette carte interactive avec les différents sites qui s'affichent. Bien sûr, à la condition que le flux RSS ait été préparé dans le bon format, un format qui soit utilisable par ce système. Donc ça, c'est un premier degré d'automatisation. Mais on peut aller beaucoup plus loin si on veut éviter que le professeur ait lui-même à faire cette manipulation de création de mashup. Alors ici, vous avez un bouton édition. Je vais vous montrer un peu comment se passe l'édition des fiches. Donc le professeur qui veut participer à un mot de passe académique, il peut avoir accès à la liste des fiches qu'il a créées ou créer une nouvelle fiche. Et ensuite, le système est simple. Il a des champs à remplir. Par exemple, ici, vous avez le champ latitude, longitude. Alors pour ça, j'ai préparé aussi un petit outil de géolocalisation. Donc il peut zoomer sur la carte ou la photo satellite. Et en cliquant à un endroit précis qui l'intéresse, on a les coordonnées qui apparaissent. Donc ça lui permet de remplir les coordonnées. À partir de ce moment-là, la carte est mise à jour automatiquement avec le petit carré qui apparaît au bon endroit. Et de la même manière, il peut remplir les différents champs, description, activité et autres, avec une sorte de petit traitement de texte. Donc ça, c'est très très simple d'utilisation pour le professeur. Il s'agit en gros d'une utilisation de traitement de texte. Bon, il y a des consignes qui sont indiquées sur le côté. Ici, on voit tout de suite que automatiquement, dès qu'une une modification est faite, les différents fichiers RSS, XML, KML sont mis à jour. Donc le visiteur du site, même si vous n'avez modifié que trois mots, va voir tout de suite les modifications. Alors, je vous explique rapidement comment se réalise cette automatisation. Il y a différents intervenants, les enseignants bien sûr, qui remplissent les fiches. Il y a un comité pédagogique et scientifique, donc quelques enseignants qui vérifient la validité des données qui ont été rentrées au niveau scientifique et pédagogique. Il y a des acteurs extérieurs comme Google, Yahoo, Microsoft ou l'IGN qui mettent à disposition des outils. Le visiteur du site. Et puis, il y a un gestionnaire technique. Alors, le principe, c'est qu'on va essayer de reporter toutes les contraintes techniques en amont sur ce gestionnaire technique. Ça veut dire qu'une seule personne aura à se mettre à jour au niveau technique et tous les autres utilisateurs en aval ne seront pas embêtés avec ces contraintes techniques. Donc, en gros, le principe est celui-ci. On rentre les données dans un formulaire, donc une simple page HTML, comme vous avez vu tout à l'heure. Le gestionnaire technique a préparé des procédures d'automatisation Pour cela, il utilise un langage de programmation qui s'appelle le PHP. Ça va permettre de transformer ces données et de les stocker dans une base de données. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon, c'est une base de données MySQL. Il va y avoir validation de ces données, c'est-à-dire que dès qu'il y a une modification de fait, le ou les professeurs qui sont spécialisés, par exemple, en géologie ou au niveau pédagogique, vont relire la fiche, donner leur accord. Dès que cette validation est faite, le processus peut continuer. On repasse par le PHP et on va créer des fichiers de données, comme le flux RSS que vous avez vu tout à l'heure, qui vont aller se combiner aux outils proposés par Google, Yahoo ou Microsoft. Et à ce moment-là, on va générer des pages web qui intègrent ces différents éléments. C'est ce qu'on appelle un affichage dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas un site web classique en HTML où les pages sont figées, mais les données sont remises à jour. Disons que les pages sont composées à la volée. Quand vous rentrez l'adresse d'une page ou quand vous cliquez sur un lien, c'est à ce moment-là seulement que la page est créée en prenant les données aux différents endroits où elles se trouvent. Et donc, dernière étape, consultation des données par les visiteurs du site. Donc, les contraintes techniques. Je pense que vous l'avez compris. Pour les visiteurs, il n'y a pas de contrainte particulière, si ce n'est le fait de, par exemple, télécharger un fichier sur son disque dur pour pouvoir l'afficher dans Google Earth. Donc pour le visiteur, c'est vraiment très simplifié. Pour les professeurs rédacteurs, les contraintes sont réduites. Vous l'avez vu, c'est en gros l'usage d'un traitement de texte, avec quand même quelques fonctions en plus, mais il y a une aide qui est fournie. Donc là, c'est vraiment des contraintes techniques très réduites. Et le reste des contraintes, donc, reviennent au gestionnaire. Alors, les premiers retours de ce système, c'est un système qui est lancé depuis plusieurs mois maintenant. Il y a eu à peu près une quinzaine de professeurs qui se sont associés au projet de manière libre, c'est pas rémunéré, hein, c'est du volontariat. Donc, il faut quand même accepter de s'exposer, d'exposer son travail. Ça, c'est sans doute une des limites du système. Bon, malgré cela, on a quand même une cinquantaine de propositions de fiches. Il y en a 35 ou 40 pour l'instant qui sont validées parce que certaines sont encore incomplètes. Elles peuvent très bien être complétées au fur et à mesure par le professeur. Des retours d'utilisation en classe, on en a eu quelques-uns, mais pour l'instant, comme c'est un système assez récent, on n'a pas eu trop de retours. Je pense qu'à l'avenir, on en aura davantage. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que les systèmes de géomatique comme Google Maps ou d'autres systèmes grand public nous apportent des fonctions de plus en plus intéressantes, à la fois en histoire-géographie, en géologie, en SVT. Donc, à mon avis, ça devient incontournable. C'est vraiment très utile pour le professeur, pour travailler avec les élèves. L'inconvénient, vous l'avez compris, c'est que il faut se remettre à jour très souvent, remettre à jour ses connaissances pour pouvoir utiliser ces nouveaux systèmes. Donc, le moyen de contourner ce problème, c'est de reporter les contraintes techniques en amont en utilisant un système d'automatisation, comme par exemple le PHP. Voilà en gros le principe de ce site.
Alors, merci beaucoup.
Voilà.
Je passe la parole pour une question.
S'il y avait quelqu'un qui n'était pas de l'éducation nationale et qui voudrait vous proposer un itinéraire, par exemple.
Alors,
je pense à des sociétés d'histoire naturelle, des choses comme ça, ou des géologues amateurs.
Voilà, alors.
Enfin, amateurs éclairés, ce qui passerait quand même, je suppose, au.
Alors, jusqu'à présent, on demandait l'adresse email académique pour créer des fiches, de manière à ce qu'il puisse y avoir un certain contrôle. Mais il se trouve que parmi les retours qu'on a eus, on a eu beaucoup de messages de passionnés, justement, de géologie, de gens qui sont dans des associations ou qui simplement font des visites, trouvent des fossiles, des choses comme ça. Donc, à mon avis, à l'avenir, il serait intéressant d'ouvrir la rédaction à ces personnes-là. Il n'y a pas grand risque de toute façon, puisque les personnes obtiennent un mot de passe, hein, donc il n'y a pas d'accès libre, hein, on sait qui se connecte. Et puis après, il y a une phase de validation de toute façon. C'est-à-dire que quand une personne remplit quelque chose, ça n'apparaît pas à la seconde sur Internet. Hein ? Un professeur reçoit un message, valide le texte et le publie. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas grand risque à laisser un accès à des passionnés. Bien au contraire, à mon avis, ça serait un moyen d'enrichir la base de données.
Oui. Ma question, c'est qui a fait la carte géologique parce qu'il y a des informations qui sont apportées par les professeurs rédacteurs,
oui.
Mais il y a quand même un fond. C'est la carte géologique, les formations géologiques, les séries, etc. Et ça, ça vient d'où ?
Alors, cette carte géologique, c'est moi qui l'ai composée, en fait, avec Illustrator, c'est un logiciel de dessin vectoriel, en superposant différentes cartes. Donc, il y a des données topographiques au niveau de l'hydrologie, etc., différentes données, et une carte géologique de la région. Donc, il a fallu supprimer certaines informations pour que ça reste lisible, ce qui fait qu'on n'a pas spécialement de problème de droit d'utilisation à ce niveau-là, étant donné qu'on a recréé cette carte.
Par contre, elle est écrite en dur, celle-là. C'est-à-dire que tu ne la changes pas comme ça à la volée, si jamais tu as décidé que tu allais afficher autre chose.
Voilà.
Tu n'as pas des fonctions ICG aussi qui permettraient, à cet endroit-là, de faire du, je sais pas, de la transparence.
Non, ça fait pas partie pour l'instant des fonctions. Par contre, on peut intervenir sur le fichier à la base, Illustrator, et après le fichier est vierge et c'est le PHP qui va plaquer dessus les différents sites. On pourrait imaginer à l'avenir, ça dépend par exemple des données disponibles, peut-être par l'IGN, ça sera peut-être possible. Si l'IGN fournit des données géologiques en libre service, on peut imaginer de remplacer ce fond de carte qu'on fait nous-mêmes par le fond de carte de l'IGN. Après, il faudra se renseigner sur les droits d'utilisation.
Cette carte a été épurée pour être devenue pédagogique, contrairement aux cartes par l'infotaire.
Elle est visible par l'élève de lycée.
Oui, contrairement à l'infotaire où, en plus, pourtant, il y a maintenant de plus en plus une carte vectorielle qu'on peut mettre, mais la navigation n'est pas facile, n'est pas.
C'est pas encore région sud.
Donc c'est vrai que l'intérêt là, c'est de garder quand même les informations utiles, indispensables, de simplifier pour que ça soit très lisible et utilisable facilement pour les élèves. On est parti du principe que des élèves de lycée, mais aussi de collège, puissent utiliser ce site-là.
Et l'initiative de.
Alors, c'est parti
de. Comment ça a commencé, quoi ?
En fait, on a un collègue de l'académie qui est vraiment très calé à la fois en géologie et puis aussi il est formateur, il a plein d'idées. Il voulait faire un système un peu de ce type-là, c'est-à-dire un travail collaboratif, rassembler les connaissances de différents professeurs. Par contre, il n'avait pas la connaissance technique à côté. Donc on s'est associé, moi qui savais programmer en PHP, peu à peu l'idée a mûri, on a réfléchi au système, et puis on est arrivé à la conclusion que si on voulait que beaucoup de professeurs puissent participer, il fallait que ça soit le plus simple possible d'utilisation. Donc à moi d'essayer toujours d'améliorer tout ce qui est ergonomie, la simplicité, et puis lui a toujours les bonnes idées pour tout ce qui est géologie et utilisation pédagogique.
C'est intéressant ce que vous avez fait par rapport à. Je ne sais pas si tu étais là ce matin avec la conférence de Thierry Joliveau.
Je suis arrivé à 11h seulement.
Bon, c'est typiquement ça, c'est le web 2.0 où tu as à la fois un apport à la base, comme cette carte géologique, et puis derrière les contributeurs qui viennent mutualiser leurs ressources. Et moi, du coup, je me disais, enfin, moi, ton système, nous, on a fait des expérimentations où les élèves allaient sur le terrain et ramenaient des photos du terrain. Mm-hmm. Et on n'était pas tellement dans la logique académique de mutualiser des ressources d'enseignants, mais plutôt de mutualiser des ressources apportées par des élèves. Donc, ce que tu as fait, enfin, je comprends qu'il y a un outil développé ici, on pourrait le prendre, et puis cette fois-ci le mettre sur un autre, sur le même serveur, mais le cloner, on va dire, et lui dire, bon, là, c'est pour faire travailler une classe. Et puis, à la place de mettre la carte, peut-être, de Nancy Metz, on mettrait un secteur géographique plus réduit, et on demanderait des élèves d'aller chercher des photos et puis de les rentrer. Et toi, tu pourrais très, très facilement modifier ton fichier de saisie de données pour que ça rentre dans une logique d'élève. Par exemple, dites-moi. À quelle échelle on voit cette image, que c'est un informe, est-ce que c'est une roche, c'est un minéral. Mettez les commentaires sur cette photo. Et du coup, tu vois, je pense que ça va beaucoup plus loin que ce que vous avez envisagé au départ au niveau de l'utilisation. Parce que pour autocollants, actuellement, il y a une limite à l'utilisation par les élèves. Parce qu'il faut qu'ils fassent un petit peu de HTML, tu sais, s'ils veulent faire un petit KMZ. Mmh. Tu vois. Et ça freine un peu les enseignants, parce qu'il faut donner un minimum d'explication, même si ce n'est pas très compliqué. Mmh. Alors que là, du coup, tu as fait l'interface. Enfin, moi, c'est un projet que j'avais de faire faire à un autre prof. Et là, d'une certaine manière, je comprends que c'est fait. Mmh.
Qui génère automatiquement ce fichier KMZ. C'est vrai que ça serait un bon système hein, pour faire travailler les élèves, hein, les faire participer. Oui, en collaboratif, exactement. En plus, le système est quasiment prêt, donc y aurait des adaptations à faire. Et l'avantage du PHP, c'est que vraiment, on n'a pas de contraintes. C'est sur mesure, on fait exactement ce qu'on veut. Donc on prépare des masques, comme tu dis, hein, des cases à cocher, des choix, quelque chose de simplifié pour l'élève, bien sûr. Donc ça serait éventuellement possible.
Je pense que ce serait une application. Enfin, bon, déjà en soi, c'est intéressant de faire utiliser une porte. Je ne sais pas, toi tu m'as ajouté, tu as une meilleure vision de nous, de l'hypothèque. Parce qu'il y a de ça, quand on parle d'hypothèque, les profs mutualisent les données académiques sur un site. Est-ce que, parce que j'ai l'impression que l'hypothèque, pour l'instant, elles n'étaient pas automatisées comme ça là ici.
Non, ça démarre très doucement, mais c'est simplement des liens vers.
Ouais, ce sont des liens vers. Ouais. Donc je pense que ce projet, ça serait intéressant de le faire connaître au niveau national pour aller montrer un peu un dispositif qui serait beaucoup. Et lui, on peut imaginer la carte de la France.
Oui, alors ce qu'on.
Avec possibilité de souligner différentes régions.
Après, il y aura des choses à rajouter.
Alors, justement. Il y aurait possibilité assez facilement, tout en restant dans un cadre académique, participation des professeurs, d'intégrer à la base un autre secteur géographique et une autre carte géologique. Hein, on garderait le même système en intégrant simplement une autre carte pour une autre région de la France, avec une seconde base de données, et ça serait utilisable quasiment tout de suite. Alors, vous avez, je vous dis, c'est des outils vraiment, bah, vous les connaissez, hein, extraordinaires, hein, Google Maps et autres. Il rajoute des fonctions sans arrêt. Là, tout récemment, c'était la fonction relief avec les lignes de niveau. Et donc, on peut passer d'un site à l'autre très rapidement. Donc, je choisis, par exemple, la vue qui m'intéresse. Ici, la vue satellite à une certaine hauteur pour un site. Et puis, je peux passer avec le même zoom aux différents sites remplis, avec toujours un lien vers la fiche, hein, si on veut en savoir plus. Et donc, toute cette liste-là, si je reviens un petit peu en arrière... Toute cette liste-là est mise à jour en temps réel. Hein. Dès qu'il y a une modification, les mises à jour apparaissent. Et c'est utilisable immédiatement.
Il y a tous les outils d'indexation par mot-clé, derrière, c'est ça ?
Voilà.
Et tu pourrais les modifier facilement, puisque suffit que tu rajoutes dans la base de données le champ. Et...
Oui.
Là, c'est tous les sites intéressants de géologie que tu as rentrés, c'est ça ?
Alors, pas moi, mais qui ont été rentrés par les professeurs de l'académie. Pour l'instant, ils ne sont pas très très nombreux, hein, parce que le projet, ça fait que quelques mois qu'il est vraiment en fonctionnement. Mais on peut imaginer que, comme c'est un peu plus connu maintenant, on va vite arriver à un grand nombre de sites.
Par contre, je n'ai pas vu l'auteur de la fiche. Il apparaît
Oui, l'auteur apparaît. Hein, je vais revenir au site général. Systématiquement, en bas de chaque fiche, ouais, hein, il y a l'auteur avec un lien pour pouvoir le contacter.
Voilà. Et donc, en gros, la principale charge de travail, c'est toi. Et la principale charge financière, c'est justement d'attribuer le temps donné par le... Et ça marche comment avec...
Ça n'a pas été prévu, apparemment. Donc, pour l'instant...
Tu n'as pas de décharge, tu n'as pas de...
Non. Non, mais ça m'intéresse beaucoup et ça me permet de progresser. Il y a aussi la charge de travail de mon collègue hein, qui fait toute la partie contrôle au niveau géologique, qui prépare les annexes scientifiques, des choses comme ça. Bon, les annexes scientifiques, j'ai prévu aussi le système permettant de les remplir par les professeurs. Glossaire, annexes scientifiques, tous les éléments supplémentaires, les circuits géologiques, peuvent être remplis par des professeurs. Mais pour l'instant, ces choses un petit peu annexes, c'est lui qui les remplit, donc ça lui demande beaucoup de temps aussi. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu Il
semble qu'il manquerait peut-être un truc, mais bon, peut-être la possibilité pour le visiteur de lui-même ajouter des trucs, tu vois. Mm-hmm. Dire, je sélectionne les arrêts que j'ai repérés, comme un système de lien, où je mets des annotations pour mes élèves, pour dire, vous êtes allé là, je vous pose cette question par rapport à cet arrêt. Mais bon, après, c'est oui. Faire des fonctions, on pourra en imaginer beaucoup. Bon, merci beaucoup, on va arrêter là, parce que ça va commencer, on a déjà un petit peu de retard.
Toutes ces adresses-là vont être mises sur le...
Alors, donc, le principe des journées, c'est que on enregistre, et donc les enregistrements sont mis en ligne avec l'autorisation des gens qui vont présenter. Avec l'autorisation, on est encore également... Il a préparé un texte qui doit déjà être en ligne, si je me souviens bien. On a vérifié l'autre fois, c'était bon cette fois-ci. Et puis, donc, toutes les adresses sont...
Pour trouver le site, vous tapez Géologie de la Lorraine, simplement dans Google, vous le trouvez.
Là, ça a été fait depuis combien de temps, ça ?
Alors, le projet, on a commencé à le mûrir il y a déjà 2-3 ans, mais bon, le temps de le mettre en place et tout, ça fait quelques mois que c'est vraiment en service.
C'est
lui
qui l'a présenté ailleurs ?
Non.